Ravie d'accueillir aujourd'hui trois élèves de la classe de Terminale 6 du lycée Marie Curie de Strasbourg, Léo Rivière, Dani Gelati et Romain Bondimbou. Ils sont accompagnés de leur professeur d'histoire-géographie, Amel Atimli, et de leur documentaliste, David Wimmer-Nejman, à l'initiative du travail de mémoire effectué tout au long de l'année dans cette classe et dont on va parler. Alors, le parcours de quatre membres d'une même famille originaire de Belfort, morts en déportation, le parcours qui a donné lieu à un reportage vidéo réalisé par les élèves, mais aussi des recherches menées, des visites au mémorial de la Shoah à Paris et au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne jusqu'à la restitution des travaux dans l'hémicycle de la région Grand Est à Strasbourg. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors je les ai ravis de vous accueillir aujourd'hui en studio. Nous nous étions déjà vus à différentes reprises, que ce soit effectivement lors du témoignage d'Hélène Truchot, une membre de la famille Nejman, enfant caché, mais également au camp d'Auschwitz-Birkenau, et au retour de votre visite au mémorial de la Shoah à Paris. Alors pour commencer, on va parler avec l'initiateur, c'est ça, de ce projet, David Wimmer-Nejman. De quelle idée est parti ce travail sur la mémoire de cette période, en sachant que c'est évidemment au programme des terminales, mais l'idée d'en faire un reportage et d'en faire quelque chose de très personnel?
Alors déjà, il faut savoir que c'est un appel à projet que la région Grand Est lance chaque année pour sélectionner une douzaine d'établissements scolaires sur tout le Grand Est, donc en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardenne. Et ça fait déjà un ou deux ans que Mme Gloclair m'avait parlé de cet appel à projet et que ça me titillait. Et puis ça fait quelques années qu'avec Mme Atimli, on en parle, qu'elle avait envie d'aller à Auschwitz avec des élèves, qu'elle avait envie de faire un projet autour de cette thématique-là. Et quand Mme Gloclair donc, m'a reparlé de cet appel à projet, je suis allé voir Mme Atimli et je lui ai dit bah, « Écoute, si on se lançait dans ce projet-là ?» Donc on a dit oui. Et en fait, le principe n'est pas simplement d'organiser une journée d'études au mémorial de la Shoah à Paris et sur le camp d'extermination en Pologne, mais d'accompagner toute l'année par un projet pédagogique une classe. Et on s'est attelé à mon bureau, on a réfléchi. C'est vrai que le principe est d'étudier des déportés de façon un tout petit peu plus précise. On s'est posé des questions. Est-ce qu'on allait prendre une figure symbolique strasbourgeoise, un universitaire? On est tous les deux, moi un ancien historien de formation et Mme Atimli prof d'histoire, donc est-ce qu'on prend quelqu'un en rapport avec la fac d'histoire comme Marc Bloch par exemple? Et puis Mme Atimli m'a dit à un moment donné, mais toi ta famille elle a été déportée, donc je lui dis bah oui. Et bah, elle m'a dit, et si on prenait des personnes de ta famille? Donc ça a été un petit temps quand même d'interrogation, de vérification avec mes tantes et les membres de ma famille pour savoir s'il n'y avait pas de problème. Une vérification aussi auprès du mémorial de la Shoah si ça pouvait passer, parce qu'on est originaire de Belfort et pas de Strasbourg. Et puis la certitude aussi avec Mme Atimli de ne pas avoir forcément les projecteurs sur moi, ce que je n'avais pas forcément envie, et avec cette décision de n'avertir les élèves que ces personnes-là étaient de ma famille qu'en toute fin de projet, pour vraiment pas qu'il y ait ce sentiment du projecteur sur la famille du professeur. Donc voilà, on a monté tout ce projet-là. Et puis qui dit projet d'année, dit restitution en fin d'année et production finale. Donc on l'a vu à la journée à l'hémicycle de la région. Généralement, c'est des diaporamas, des affiches. Et en fait, on avait envie de faire autre chose aussi avec les élèves et témoigner vraiment par une production peut-être un tout petit peu plus originale de l'ensemble du projet depuis la première séance de recherche jusqu'à la restitution. Et très naturellement est venue l'idée de réaliser un mini-film documentaire en fait sur ce projet-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu intégralement à la question.
Si, tout à fait. Mais alors, de quelle façon vous avez réalisé les prises de vue? Ça, c'est un travail scolaire. Ça, c'est quelque chose que vous avez organisé de par vos compétences et votre appétence propre. Ou est-ce que c'est quelque chose où les élèves étaient formés? Parce que ça demande effectivement de la prise de vue, une forme de montage, un conducteur. Enfin, c'est quand même des pratiques qui sont quasi professionnelles.
Alors on a été un peu dans l'impro, en tout cas dans les prises de vue. Chaque séance de recherche au CDI, le voyage à Paris, les rencontres qu'on a eues avec Madame Truchot, Monsieur Lemler, tout a été filmé. Et c'est à chaque fois un élève différent qui prenait la caméra du lycée et qui filmait. Pour Auschwitz, on a été obligé de demander une accréditation spéciale pour filmer, parce que normalement, on n'a pas le droit, qu'on a obtenu. Et puis après, je dirais pour le montage, moi j'ai deux, trois petites compétences sur un logiciel dont on va pas donner le nom pour faire de la publicité. Et il s'avère que Léo, qui est en face de moi, a aussi des compétences en montage. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait s'occuper du montage, lui et moi. Et c'est essentiellement pour l'instant lui qui s'en occupe à 80%. Et puis voilà, aujourd'hui, on va d'ailleurs voir un petit peu les rushs et tout ce qui a été monté pour faire une sélection.
Alors, on l'entend, un travail précis à certains moments pour préparer effectivement et des visites et un travail approfondi et particulier sur ces déportés. Mais à côté de ça, Madame Hatimni, vous avez également, en cours d'histoire-géographie, on va dire, exploré de façon transcendantale, j'allais dire, presque, et pas uniquement d'histoire-géo, la Shoah, la mémoire de la Shoah, l'histoire de ces déportés, le contexte. Comment est-ce que vous avez finalement procédé pour travailler et en parler toute l'année, en sachant, je le disais, que c'était au programme, oui, qu'on est dans une classe de terminale avec un bac qui arrive à la fin de l'année, donc ne pas prendre trop de temps non plus hors programme, mais leur proposer des réflexions autour de cette thématique bien précise.
Alors, il est vrai que dans le programme d'histoire-géographie, on a tout un aspect sur le génocide des Juifs et des Tziganes, et notamment sur la Shoah. Et donc l'idée, moi, c'était surtout de travailler sur le camp de camp de concentration et le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Et donc l'idée, c'était en classe, je me suis inspirée d'un ouvrage, je ne sais pas si je peux citer l'historien, c'est Tal Brutman. Donc, il y a quand même qui fait un peu autorité aussi sur cette question. Et donc, dans un de ses ouvrages qui s'intitule tout simplement Auschwitz, j'ai utilisé ses recherches, j'ai utilisé aussi les plans qu'il avait pu restituer, notamment aussi issus du musée d'Auschwitz. Et donc, à partir de là, de ce travail sur le camp, on a un petit peu déroulé le fil de l'histoire aussi, de la création de ce camp et aussi de son agrandissement et de ses fonctions. Et donc on passe effectivement de la construction d'un simple camp de concentration au départ qui a été construit à partir d'une caserne et qui ensuite est devenu une véritable usine de la mort. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire ça en classe avec les élèves et en parallèle développer aussi en quoi ce camp aussi peut-il refléter les horreurs commises durant la guerre et cela jusqu'en 45. Donc voilà, on a vraiment travaillé là-dessus et j'ai vraiment voulu entrer de cette manière. Et puis pour que ça fasse un écho, je me suis dit, le jour où on ira à Auschwitz, au moins, peut-être pour certains, pas pour tous, mais au moins pour certains, ils auront peut-être à l'esprit ce qu'on avait fait en classe, ce qu'on avait vu en classe. Et c'est vrai que je sais que pour en avoir discuté avec quelques élèves, et moi aussi, je tire cette même expérience, c'est une chose de lire sur Auschwitz, de voir le plan. On ne se rend pas compte de la taille de ce complexe, on ne se rend pas compte, vous y étiez aussi, on a marché pendant des heures. Moi, c'est ce que je retiens aussi, c'est des heures et des heures de marche. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand on y était, c'est que c'est bien d'avoir travaillé sur les plans, c'est bien d'avoir apporté justement ces notions théoriques, mais ça vient conclure, en d'autres termes, un petit peu ce qu'on avait pu voir sur Auschwitz en classe. Et c'était vraiment ça que je voulais faire avec les élèves, c'est vraiment ça.
Alors vous avez également travaillé en cours de philosophie autour du totalitarisme. Ça, c'est important également de prendre dans la notion en cours de philosophie pour vous aider à comprendre de quelle façon s'est appliquée cette mise à mort industrielle. C'est comme ça que vous avez, préparé cette visite lorsque vous êtes parti. Alors, vous avez fait le mémorial de la Shoah, donc c'est très, très documenté. C'est des choses que vous connaissez. Alors c'est quelque chose que vous avez peut-être préparé également au mémorial de la Shoah, lorsque vous avez vu les documents, vous avez des conférenciers qui vous ont préparé à cela. Vous avez eu l'impression, vous, lors de cette visite à Auschwitz, d'avoir été bien préparé, de pouvoir, j'allais dire, presque accueillir des choses qui dépassent l'entendement, que vous ne verrez certainement plus jamais, j'espère pour vous. Dani.
Je pense que non. Ce qui a été le plus marquant quand même, c'était toutes les traces et tous les objets témoins de la déportation des Juifs à Auschwitz-Birkenau. On était prêts au niveau de l'installation, mais pas au niveau des dimensions, et encore moins de tous les biens qu'on pouvait y retrouver, les biens personnels, comme les tenues des enfants, de la verrerie, de la vaisselle, et plein d'autres objets comme des béquilles, des sacs, tout ce qui avait une marque d'une existence qui a juste été totalement brisée. C'est ça ce qui m'a plus touché et qui m'a choqué, dans le sens où j'étais pas forcément prêt non plus.
Ça donnait quelque part, ça a redonné vie à ces personnes qui ont été exterminées dans ce camp. Ça leur redonnait une existence, j'allais dire, matérielle.
Oui, c'est ça. Et c'est surtout une preuve de... C'est un peu triste de le dire, mais une preuve de leur existence. C'est une preuve qu'ils étaient comme nous. Ils avaient une vie. Ils vivaient avec leur famille, totalement insouciants de ce qui allait leur arriver. Ils n'étaient pas préparés. Ils avaient encore tout leur bagage en pensant qu'ils... pourront les utiliser, mais finalement tout a été enlevé et ils ont été exterminés très rapidement.
C'est quelque chose, ça, que vous continuez aujourd'hui à porter, ce travail d'une année avec le camp d'Auschwitz-Birkenau en particulier, mais aussi les témoignages de M. Lemler ou de Mme Truchot. C'est des choses que vous continuez à porter en vous aujourd'hui. Ça vous a changé, il y a un avant-après. Romain ?
Moi, personnellement, le fait d'aller à Auschwitz, ça m'a donné une perspective différente sur ces massacres en général. Alors évidemment, forcément, je suis horrifié par ce genre d'action, comme tout le monde se doit de l'être, j'imagine. Mais la visite des installations, déjà, pour commencer, donc me rendre compte de l'étendue du complexe, comme on a pu le dire avant moi. Et puis ensuite, le lien qui est fait avec les restes des déportés, donc que ce soit leurs cheveux ou de leurs affaires, ça m'a fait une connexion, on va dire, que j'ai pu enfin associer étendue du camp, toutes ces installations, etc., à ces affaires, et ça m'a vraiment touché. Et surtout maintenant, quand dans le monde, il y a d'autres massacres de ce genre qui se déroulent, et une association plus forte qui se fait pour moi. On va dire que je me dis, j'ai vu ce qui s'est passé il y a 80 ans en Pologne, et je me figure un peu mieux ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Et ça me touche, et je le comprends mieux, et j'ai envie que ça change. Voilà.
Et pour vous, Léo ?
Oui, je suis d'accord avec Romain. Il y a surtout un vrai rapprochement qu'on peut faire avec ce qui se passe actuellement, mais aussi à travers le travail qu'on fait. Par exemple, en philo, quand on en a reparlé, on est directement plus touché par ce qu'on entend par la prof. Et peut-être qu'on a plus envie de s'investir à travers les projets sur ce sujet. Et ça nous aide aussi un peu à nous revisualiser les cours qu'on a depuis le collège. Et notamment, sur, comme disait Dani, la dimension vraiment gargantuesque de ce camp.
Vous avez travaillé sur quatre membres de la famille Neijman de Belfort. Vous avez appris seulement en fin de, on va dire, de travail scolaire que ce sont que c'est de la famille à votre documentaliste Monsieur Wimmer Neijman qui est là. Pour vous, ça a pris encore une autre dimension à ce moment-là.
Pour le coup, oui. J'étais quand même un peu plus touché. On en parlait un peu comme si c'était des acteurs des camps et qu'ils ont juste subi ça comme n'importe qui des autres déportés. Et quand on a appris que finalement c'était des personnes membres de la famille de notre professeur documentaliste, on a quand même pris ça sous un autre angle, j'ai envie de dire, ce qui nous a quand même un peu plus mise dans le travail de manière, je dirais, dans une relation un peu plus humaine.
On lui est reconnaissant aussi. Hein. C'est, merci à lui de nous avoir partagé ses archives.
Ouais, c'est un vrai don aussi de l'histoire de sa famille. C'est pas unique. On est au-delà quand même d'un cours pédagogique. Mmh. On est dans un don de quelque chose de très très personnel, comme l'histoire effectivement de votre tante. Monsieur Nejman, qui est venu témoigner d'avoir perdu son père dans les camps, etc., de faire revivre également pour vous, faire remonter à la surface, certainement, une histoire de votre famille qui est difficile et compliquée.
Oui, c'est vrai que je me suis posé la question au début de l'année de comment j'allais avoir la distance pour étudier tout ça. C'est les parents de ma grand-mère et c'est les deux frères de mon grand-père qui ont été étudiés par les élèves. Et c'est vrai que j'ai essayé de garder le plus de distance possible. La plupart des photos et des documents que les élèves ont utilisés sont des documents qui sont conservés au mémorial de la Shoah, mais il y a une grosse partie en fait, qui sont dans les archives familiales que ma tante, qui est l'aînée des trois sœurs, a gardé chez elle précieusement. Et c'est vrai que toute la question, ça a été de quelle distance j'allais mettre entre cette étude très importante, mais très scolaire quand même, par les élèves, et puis mon propre rapport émotionnel et familial sur ces personnes-là dont j'entends parler, dont je vois les photos depuis que je suis enfant. J'ai réussi en fait à avoir cette distance-là pendant tout le travail scolaire, pendant les rencontres qu'on a eues, la journée qu'on est passé à Paris au mémorial de la Shoah, qui est un endroit que je connais bien, parce que systématiquement, quand je vais à Paris, je vais au moins sur le mur des noms pour honorer la mémoire des personnes de ma famille. Et puis j'y vais quand même assez régulièrement pour travailler aussi au centre de doc, qui est vraiment très très bien. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été à Auschwitz, parce que j'étais à la fois enseignant, co-porteur du projet avec Madame Atimni, notre collègue de philosophie Madame Poulain était là, les élèves étaient là, donc j'avais ma mission d'enseignant et puis j'avais aussi le petit David enfant qui avait vu toutes ces photos là. Je sentais que l'émotion montait de plus en plus et en fait le moment où j'ai un peu craqué, c'est que quand on est dans le musée et que on s'est retrouvé devant la salle où il y a toutes les valises, ça a été compliqué. Je sentais déjà que les larmes étaient en train de monter. Et puis j'avais vraiment le petit David en fait prenait le pas progressivement dans la journée sur Monsieur Wimer Nejman, l'enseignant encadrant. Et quand on s'est retrouvé devant la vitrine avec les cheveux, là j'ai je suis parti un quart d'heure dehors parce que c'était un petit peu compliqué. C'était à la fois nécessaire en tant qu'enseignant de transmettre ça, c'était nécessaire aussi à ma construction de citoyen et d'humain, quelque part d'être le premier de ma génération de cousins, à aller sur ce lieu-là. Personne encore, ma mère et ses sœurs et donc ma tante n'y sont jamais allées, mes cousins, cousines n'y sont jamais allées aussi, parce que il y a vraiment quelque chose de très fort et de très horrible qui est lié à ça. Et je suis très content d'avoir été le premier, finalement, de ma génération à y être allé en tant qu'être humain. Et très fier en tant qu'enseignant d'avoir, avec une de mes collègues, monté tout ce projet-là et d'avoir emmené des élèves là, au-delà de la dimension personnelle de ma famille, mais d'avoir permis à ces élèves-là d'avoir une autre prise de conscience.
Dans les documents que vous avez cherchés, etc., vous avez découvert, vous, des choses où vous étiez les lettres. Donc effectivement, vous n'étiez pas dans quelque chose, on va dire, de l'ordre du témoignage un petit peu automatique. Je pense aux aînés, aux rescapés de la Shoah qui racontent de façon presque un petit peu automatique aujourd'hui, presque dénués de sentiments. Et c'est normal parce qu'elles l'ont raconté mille fois. Vous étiez à la découverte, au pied de la découverte de cette histoire de lettres et de choses qui ont touché votre famille. Et donc, c'est tout à fait normal que c'est au-delà du professeur qui apprend quelque chose à ses élèves. Vous étiez vous-même apprenant et en même temps dans l'émotion.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de photos et de documents qui m'accompagnent depuis que je suis tout petit. Le fils de Madame Truchot, Grégoire, mon cousin, on est les deux à avoir une relation très, très privilégiée avec mon grand-père et avec qui... mon grand-père, très très tôt, a discuté beaucoup avec lui, beaucoup avec moi. Donc il y a un certain nombre de documents qui étaient connus de lui et de moi depuis tout petit. Mais ces lettres, par exemple, je ne les avais jamais lues, j'en avais jamais entendu parler. Quand ma tante est venue témoigner et qu'elle leur a dit que le frère de mon grand-père, son père, en fait, passait que ma grand-mère passait avec le landau, devant la prison où il était incarcéré avant d'être transféré à Auschwitz, dans l'espoir éventuellement de l'apercevoir, elle et le bébé, c'est quelque chose que mon grand-père ou ma grand-mère ne m'avait pas dit et que j'ai appris. Donc il y a des choses que je connaissais et des choses que j'ai apprises effectivement par ce projet-là, ce qui est assez touchant et émouvant, effectivement.
Aujourd'hui, ce documentaire, il est terminé, il est visible par les spectateurs, parce que là, on n'a qu'une envie, évidemment, c'est de le voir pour suivre ce trajet.
C'est en cours.
C'est en cours. Hein.
On a un teaser, si vous voulez. Je crois que Monsieur Nejman l'avait mis déjà. Il est en ligne sur le site du lycée Marie Curie. Donc, le teaser est déjà visible. Et donc là, c'est en cours. On espère, Monsieur Nejman et moi, pouvoir proposer une projection ouverte au public. On en parlait là, avant d'arriver justement, peut-être avant la fin juin. Et vous serez la bienvenue si vous voulez.
Oui, et puis l'idée, ce serait peut-être pour nous de faire une rubrique liée aux travaux des terminales 6 de Marie Curie, avec l'ensemble de ce que nous, on a au niveau audio, dont le témoignage d'Hélène Truchot ou le voyage à Auschwitz, et évidemment cette vidéo pour terminer ce travail, pour terminer cette année, parce que vous avez eu le mérite de l'avoir fait. Lors de la restitution à la région Grand Est, dans l'hémicycle de la région Grand Est, vous avez échangé, vous, avec les autres lycéens sur leurs ressentis, sur... Comment, eux, ils ont appréhendé cette période-là?
Alors, on n'a pas particulièrement discuté avec des lycéens là-bas, mais j'ai trouvé qu'ils étaient tous vraiment très impliqués, notamment avec ce qu'ils avaient préparé pour rendre tout ce qu'ils avaient fait. Ils étaient peut-être un peu plus impliqués que notre classe, globalement.
Si vous fait dire ça?
Ils étaient tous très unis autour de leur projet, mais je pense que globalement toutes les classes ont vraiment adoré, si je peux dire ce terme,
oui,
faire ce projet.
Je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'était assez impressionnant comment on voyait chaque classe passer devant l'hémicycle, tous on va dire unis, ils étaient vraiment tous là pour la cause et... Ils venaient, ils n'avaient pas peur de parler, ils s'affirmaient.
Est-ce que c'est ce que vous avez réussi à faire aussi, hein?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Je pense qu'on se dévalorise un petit peu quand on voit le travail des autres classes, mais en fait, on n'a pas grand-chose à se reprocher. On a fait aussi bon travail.
Vous n'avez pas démérité, avez très très bien défendu le projet en faisant même le portrait des quatre déportés en direct. Dans l'hémicycle, ce qui est, en tout cas pour moi, ce qui a été très touchant d'entendre les noms, les prénoms des membres de ma famille avec leur parcours comme ça, prononcé par des élèves devant un hémicycle rempli comme ça, c'était assez touchant. Donc non, vous n'avez pas à démériter du tout.
On est modeste.
Alors, on voit que vous êtes fiers de vos élèves, que le travail a été fait, il a été intense, émotionnellement intense également. C'est quelque chose que vous pourriez, dès l'année prochaine, remettre en place, ou vous avez, vous aussi, besoin de souffler, de prendre du recul sur cette période-là?
Alors, justement, je voulais rebondir sur les propos de David. Effectivement, pour lui, c'était, je pense, c'était une charge émotionnelle très importante tout au long de l'année. Et je le remercie, hein, de m'avoir suivi, hein, dans cette idée. Et je remercie aussi son cousin, Grégoire, c'est ça, qui m'a partagé toutes les archives, qui m'avait envoyé par mail tous les documents familiaux sur lesquels j'ai pu... effectivement travailler, et c'est dans l'élaboration du dossier documentaire, donc je me suis chargée de cette partie-là, ce dossier où il fallait sélectionner sur quelles archives les élèves vont travailler, comment ils vont aller trouver les informations pour retracer le parcours de chacune de ces personnes. Je me revois parfois à mon bureau me dire, je fais une pause parce que c'est lourd.
Chargé en émotions, ouais, également.
Je me dis, oui, j'arrête 5 minutes, c'est dur, quoi. Et puis, j'avais les photos familiales, les portraits de famille. Oui, à un moment donné, on a besoin d'une pause. Parce que même si ce n'est pas mon histoire familiale, il n'en demeure pas moins que en m'immergeant dans ces archives-là, on la vit aussi, entre guillemets, hein, directement. Et c'était aussi une charge émotionnelle aussi pour moi. Donc, je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit David, parce que être confronté à ces archives, et puis sur ce qu'a dit un des élèves, je crois que c'est Dany et Romain, ce sont des gens lambda, qui ont des vies lambda, qui avaient une famille. Et rendre tout ça concret, moi je me souviens que le moment où j'ai un peu basculé, où je me suis dit, bon, il faut que j'arrête, c'est quand j'ai lu les cartes postales envoyées par les autorités nazies aux familles, en disant, en se faisant passer pour les prisonniers, en disant, il me faut, envoie-moi des slips, des chaussettes, une paire de chaussures, etc. Et donc voilà, donc il y a aussi cette charge émotionnelle, même si en tant que professeur d'histoire et... une formation d'historienne aussi par mes études. On nous a toujours dit qu'il fallait garder la distance, que j'arrive à faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir aussi, à un moment donné, reconnaître les signes.
On arrive à la fin de cette émission. Donc, moi, j'ai juste une dernière question qui va être rapide pour les élèves. Léo, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens passeur de mémoire?
Je pense qu'on est un peu obligé de se sentir... passeur de mémoire après être allé à Auschwitz. Et donc forcément, quand on en discute avec des amis ou quelque chose comme ça, je pense que je connais un peu mieux le sujet. Enfin, si jamais je connais mieux le sujet qu'eux, je trouve que c'est important de leur en parler. Et par exemple, il y a 2 semaines, on était avec des amis dans les Vosges, et du coup on est tous allés visiter le Struthof ensemble. Et je pense qu'on n'y serait pas forcément allé si je serais pas allé à Auschwitz et j'aurais pas eu cette initiative.
Dany, pareil, passeur de mémoire aujourd'hui?
Pareil, oui, on se sent... maintenant un peu plus témoin. On a eu la chance de pouvoir visiter le camp, et c'est une opportunité qu'on a eue que les autres n'auront pas forcément dans leur vie. Donc on se sent un peu plus initié à cette mémoire, et je suis totalement d'accord avec Léo.
Et Romain?
Passeur de mémoire, oui, forcément, puisque après être revenu de Suisse, j'en ai parlé, j'ai détaillé, j'ai raconté. Et donc, forcément que je suis passeur de mémoire, logiquement. Aussi, plus que passeur de mémoire, aussi émergé dans le présent, parce que forcément, c'est très fort, comme tout le monde l'a dit. On en ressort avec une perspective différente, avec une perspective marquée par tout ce qu'on a vu là-bas, par ces atrocités, quoi. Et donc, plus que passeur de mémoire, émergé dans le présent aussi. J'ai pas besoin d'en parler, hein, on connaît tous... des combats, mais présent pour lutter contre toutes ces horreurs. Voilà.
Travail réussi pour vous deux, donc David Neger-Wittmann, Wimmer Nejman, donc documentaliste au lycée Marie Curie, ainsi que Amel
Atimni.
Merci, j'arrive pas avec les noms. Hein. Ainsi qu'Amel Atimni, prof d'histoire-géographie. Pour, on va dire, cette année riche en enseignements et en émotions, on l'entend. Merci à vous.
Merci.
Je peux rajouter deux noms quand même. Madame Poulain, qui était la professeure de philosophie qui a accompagné aussi le projet, et Monsieur Gauthier, le professeur de mathématiques, qui aide aussi les élèves à faire la modélisation 3D du camp d'Auschwitz. Voilà, deux de nos partenaires enseignants qui ont aussi participé au projet.
Ben, merci à eux. Merci à vous tous.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci.